Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Marguerite Caton, Maïder Gérard, Margot Léridon et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et à la technique ce matin, Alice Seyed. Chaque vendredi, table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Sémo.
Bonjour.
Notre partenaire de chaque vendredi.
Et
ce matin, on commence, une fois n'est pas coutume, par la table ronde. Nous allons revenir sur l'épineuse question des ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite.
Je dis qu'on ne peut pas parler de cette situation au Yémen et des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite sans mettre tout ça dans un contexte. Alors à partir de là, oui. Je dis à notre interlocuteur, c'est une sale guerre. Oui, il faut l'arrêter. Oui, il faut que les Saoudiens et les Émiriens arrêtent. Oui, il faut être extrêmement vigilant sur les ventes d'armes à l'égard de ces pays. C'est ce que nous faisons. Nous sommes tout à fait respectueux d'un traité qui concerne le commerce des armes et qui est un traité international que nous respectons scrupuleusement.
Oui, le Yémen est une sale guerre, déclarait ce mardi notre ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian sur les ondes de France Inter. Difficile de lui donner tort, ce conflit qui a démarré en 2015 a causé la mort de milliers de personnes, provoqué une grave crise humanitaire, détruit une grande partie des infrastructures et du patrimoine yéménite. Mi-avril, le journal Disclose et la cellule investigation de Radio France révélaient que du matériel militaire français avait été livré à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, et ce, pas uniquement pour des fonctions dite défensive, comme l'affirmait jusqu'à présent le gouvernement. Ce document, qui émane de la direction du renseignement militaire, était classé confidentiel défense. Il vient relancer le débat sur les ventes d'armes. Alors le gouvernement français aurait-il caché des informations que lui réclament pourtant depuis des mois parlementaires et ONG? Quelle est véritablement la responsabilité de la France dans ce conflit? Et ne serait-il pas temps de revoir certaines alliances stratégiques dans le Golfe? Yémen, une sale guerre française? Eh bien, on pose la question à nos deux invités ce matin. Stéphane Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à Sciences Po, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI. Vous êtes un bon, fin connaisseur des pays du Golfe notamment. Et à vos côtés, Jean-Pierre Molny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et très bon connaisseur des questions d'armement et de défense. Et on commence bien comme chaque semaine avec vous, Marc Sémo. Peut-être retour sur ces paroles de Jean-Yves Le Drian. Il semblerait qu'on soit arrivé à un point où critique, je ne sais pas, où le soutien de la France à l'Arabie Saoudite est devenu politiquement peut-être difficile à tenir, que ce soit autant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur.
Absolument, c'est une guerre sale. Hein. Tu as rappelé le mot de Jean-Yves Le Drian, et la France y est mêlée. Alors certes, indirectement, mais elle livre du matériel militaire à ses deux alliés stratégiques de la région, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont les piliers de la coalition contre la rébellion houthi soutenue par l'Iran. Alors, mis en cause par diverses enquêtes, tu le rappelais, les autorités françaises continuent de jurer que les armes ont un caractère avant tout défensif et qu'elles n'ont pas été utilisées contre des civils. C'est difficilement crédible. Emmanuel Macron, déjà il y a quelques mois, même après l'affaire Khashoggi, l'opposant saoudien tué dans des conditions atroces à Istanbul, avait refusé, contrairement à Angela Merkel, de décréter l'embargo sur les armes destinées à Riyad et pouvant être utilisées au Yémen. Il se contente désormais, il le rappelle, d'évoquer une vigilance renforcée sur leur emploi, sans vraiment convaincre. Alors le problème, c'est que la fiabilité de la France sur le marché de l'armement est en jeu. L'autonomie stratégique implique d'avoir sa propre industrie de défense, seule ou en partenariat avec d'autres Européens, dont en premier lieu l'Allemagne. Mais les clients, et c'est normal, veulent pouvoir utiliser les armes achetées quand ils en ont le plus besoin, donc pendant un conflit, et surtout pouvoir compter sur des approvisionnements réguliers. Alors, il est normal de refuser toute vente à un État lancé dans une guerre d'agression coupable d'atrocité et d'exiger un certain contrôle. Mais hors de ces cas extrêmes, le blocage des approvisionnements entache sérieusement la crédibilité du vendeur. C'est l'un des gros problèmes pour le développement d'une industrie franco-allemande de défense, par exemple, parce que, notamment, l'accord de coalition allemand entre le SPD et la CDU interdit les ventes à tout pays en guerre. Ce qui, par ailleurs, n'empêche pas l'Allemagne de rester un des plus gros vendeurs d'armement au monde.
C'est un point crucial que vous soulevez là, c'est un peu un des nœuds du problème, la question de comment la France va gérer cette question avec ses partenaires européens. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer, Jean-Pierre Molny, par faire un point sur ce qu'on sait précisément aujourd'hui? Oui, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'on sait si ces armes, de manière certaine, sont utilisées de manière dite offensive?
La question d'avoir une arme offensive, défensive, il y a eu des tentatives en droit du désarmement, je me souviens à la fin des années 80, pour essayer de définir une arme offensive ou une arme défensive. En fait, c'est impossible à définir, parce que c'est l'usage de l'arme qui va être défensif ou offensif. Et là, dans la querelle offensif-défensif à l'heure actuelle, la position gouvernementale, c'est de dire les armes, elles sont utilisées pour défendre le territoire saoudien. C'est en cela qu'il est dit que les armes sont défensives. Après, est-ce qu'on a la certitude que ces armes sont utilisées de manière défensive? Ça, effectivement, ce n'est pas certain.
C'est-à-dire qu'il y a un flou peut-être sur ces termes. On a aussi vu le terme front actif, l'idée que le gouvernement a dit, mais ces armes ne sont pas utilisées à un front actif. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Ça voudrait dire que les armes, en fait, sont surtout sur le territoire yéménite, et qu'elles sont utilisées dans le cadre du conflit. Je pense qu'il faut un petit peu, prendre de la hauteur par rapport à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un conflit qui est à la fois, et ça vous reviendrez sur le sujet, qui est à la fois une guerre civile, et qui est également une guerre qui a un aspect régional, notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une guerre sale, puisqu'il y a un rapport des Nations Unies indiquant le nombre de civils tués lors de ce conflit. Donc il est bien certain que l'usage des armes, il se fait en dehors du droit humanitaire. Ça c'est certain. Je pense d'ailleurs que les autorités françaises en font la remarque au gouvernement saoudien maintenant et au gouvernement émirati. Mais ça, est-ce que c'est suivi des faits? Et effectivement, c'est pas certain. Donc ça, moi, je pense que ça pose plus généralement la question qui est que ce conflit et les protagonistes du conflit devraient être mis sous embargo sur les exportations d'armes au niveau international.
Stéphane Lacroix, est-ce que les révélations du journal Disclose mi-avril, est-ce qu'elles sont, selon vous, de nature à créer un point de basculement dans ce conflit? Donc ces révélations sur le fait que les armes françaises, sont utilisées vraisemblablement assez directement dans cette guerre et qu'elles pourraient être responsables de la mort de civils yéménites, ce que le gouvernement déniait jusqu'à présent, qu'est-ce que ça peut changer dans le rapport de force?
À mon avis, pas grand-chose. Quand un État achète des armes, il achète du soutien politique aussi. Et quand on regarde les commandes d'armement des États du Golfe, on voit qu'en fait, elles sont réparties de manière bien pensée pour acheter le soutien politique des pays qui comptent le plus en termes d'influence globale et régionale. Et donc, quand les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite achètent des armes à la France, ils achètent aussi du soutien. C'est pas simplement une question technique, c'est pas simplement une question militaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle de ce soutien. Pour le moment, l'Arabie Saoudite continue malgré tout de jouir d'un soutien très large parmi les pays occidentaux. Si la France venait à rejoindre l'Allemagne et à faire défection, ça pourrait effectivement priver l'Arabie Saoudite d'un certain nombre d'alliés importants pour elle. J'ai envie de dire, tant que Trump reste son premier allié, elle n'a pas beaucoup à s'inquiéter, l'Arabie Saoudite. Donc, oui, ça peut créer du débat, mais en vérité, ce qui va décider de la fin de la guerre au Yémen, c'est la situation locale, c'est le rapport de force, c'est la volonté des belligérants de s'asseoir autour d'une table et de discuter, et pour le moment, cette volonté, elle n'est pas là, et on l'a vu, puisqu'il y a eu différents rounds de négociations qui, à chaque fois, ont échoué, parce que les Saoudiens pensent qu'ils peuvent gagner cette guerre, alors que tout semble montrer le contraire, et parce que les Houssis, qui ont résisté beaucoup plus, à mon avis, qu'eux-mêmes ne l'imaginaient, aujourd'hui n'ont aucune envie de céder, alors qu'ils se voient comme étant en position de force. Donc on est dans une équation qui est très dure à résoudre. Le soutien international, et en particulier des pays occidentaux, compte, mais là encore, c'est pas la seule variable, et tant qu'il y a le soutien de Trump, à mon avis, à l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite ne sera pas suffisamment sous pression pour se sentir obligée de peut céder.
On va revenir sur l'état des lieux du conflit, oui. Le rapport de force dans la région. Juste comme on pose cette question, est-ce qu'il s'agit au Yémen d'une sale guerre ? Donc, sale guerre, je reprends les termes de Jean-Yves Le Drian, française, point d'interrogation. La France, Jean-Pierre Molnier, est signataire du TCA, le traité sur le commerce des armes. C'est un traité qui implique aux vendeurs une obligation d'évaluer si ces armes sont susceptibles de commettre une violation grave du droit international ou des droits de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a failli ou pas à cette obligation-là ? Elle est signataire de ce traité.
Ce que dit le gouvernement à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de preuves formelles. Mais effectivement, on peut avoir des doutes sur le fait qu'on n'est pas nécessairement en contravention de l'article 7 ou de l'article 6 du TCA. Mais là aussi, je vais revenir un peu sur
On n'est pas en contravention parce qu'on n'a pas assez de preuves.
Ouais, mais enfin bon, je pense qu'il ne faut pas jouer sur les mots. Et je pense qu'il là aussi, il faut aller un peu plus loin. Par rapport aux ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, je pense qu'il n'y a pas que l'appui diplomatique. Il y a aussi le fait que l'Arabie Saoudite a toujours une politique de sécurité d'approvisionnement. Justement en se disant que si un des pays qui vendait des armes à l'Arabie Saoudite mettait le pays sous embargo, bah, il y aura toujours d'autres pays qui approvisionneraient ce pays. Ce qui fait qu'effectivement, ils achètent des armes à la France, mais également au Royaume-Uni, aux États-Unis, à l'Espagne, à l'Italie. Donc il y a beaucoup de pays qui vendent des armes à l'heure actuelle à l'Arabie Saoudite. Par rapport au traité sur le commerce des armes, je pense que là on commence quand même à avoir un problème, j'ai envie de dire français, mais je vais dire un problème français, par rapport à notre engagement dans les traités de désarmement. Parce que concrètement, quelle est la situation ? Depuis maintenant une vingtaine d'années sur les, on va dire, tous les instruments de régulation, de désarmement en matière de droit humanitaire. Vous avez toujours trois pays qui vont devenir certainement, enfin pour la Chine en tout cas, les plus grands vendeurs d'armes qui ne signent jamais ce type de traité, qui sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Les États-Unis d'Obama s'étaient engagés dans ce traité. Donald Trump, il y a à peu près un mois, un peu moins d'un mois, a annoncé qu'il se retirait du traité sur le commerce des armes. Donc, ce qui est un peu gênant dans cette histoire, c'est que la France se retrouve en accusation parce qu'elle a signé un traité, alors que les pays qui n'ont pas signé ce traité, eux, peuvent vendre n'importe quel type d'armement, en quantité comme ils le souhaitent, sans jamais qu'il ne soit mis en cause par la communauté internationale. Et ça, ça pose un problème, parce que ce qui va se passer à l'avenir, moi, je le vois très bien, c'est qu'en France, les autorités, on va dire politiques, puis surtout administratives, hein, la haute fonction publique, va dire « ça suffit, plus jamais on ne signera ce type de traité, parce qu'après on se retrouve en accusation ». Donc, il y a effectivement, potentiellement et possiblement, un problème de la France vis-à-vis du respect du traité sur le commerce des armes. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que cette question soit posée au niveau international et même également au niveau européen. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, maintenant, il faudrait quand même avoir une véritable politique européenne, que ce soit par rapport aux ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, mais par rapport au règlement du conflit. Pour essayer de peser quand même sur le règlement de ce conflit.
Effectivement, l'efficacité d'un traité dépend effectivement du nombre de personnes qui vont le signer et le respecter.
Je voudrais revenir très concrètement sur la question de cet engagement français. Parce que le rapport de la direction du renseignement militaire que tu évoquais tout à l'heure est en réalité très nuancé, très ambigu. Alors il dit qu'on ne peut pas penser que rien ne permet de conclure à la présence de matériel français sur les fronts actifs. Hein, je cite l'article qu'ont fait Nathalie Guibert et Louis Humbert dans Le Monde. Mais quand on regarde la carte, en reprenant les mots même de la DRN, la Direction de renseignement militaire, alors les cartes estiment que près de 500 000 personnes, 430 000, la population potentiellement concernée par de possibles frappes de l'artillerie de la coalition. En outre, le nombre des frappes aériennes est énorme. Hein, c'est 6 000 frappes en 2018, hein, 24 000 depuis le début de ce conflit. Et dans toutes ces actions, les armes françaises, les armes vendues par la France, sont impliquées. D'une manière ou d'une autre. Hein, l'idée d'avoir déployé des canons César à la frontière saoudo-yéménite que l'on utilise seulement contre les rebelles, c'est difficilement crédible. Oui, on les utilise contre les rebelles, mais il est évident, même si les tirs sont assez précis, qu'il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Donc là, on est en pleine hypocrisie. Alors effectivement, la conclusion logique, et là je suis un peu d'accord, serait de, voilà, comment effectivement concilier ça et le traiter.
Jean-Pierre Molny.
Oui, effectivement, sachant que dans le rapport des Nations Unies l'année dernière, visiblement, c'était notamment les bombardements aériens qui causait le plus de morts chez les civils. Enfin, sur la question des Vandins, parce qu'on est toujours sur le, je dirais, noir-blanc, on-off, la situation, elle n'est pas quand même exactement celle-là, parce que dans nos Vandins en Arabie Saoudite, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il y a eu un tout petit début de levée du voile sur exactement qu'est-ce qu'on vend à l'Arabie Saoudite quand la ministre de la des armées a été auditionnée devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale il y a un mois et a dit on a interdit des ventes d'armement air-sol à l'Arabie Saoudite et on a dissuadé un certain nombre d'entreprises de déposer des licences d'exportation. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est exactement à quel niveau, à l'heure actuelle, en commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels de guerre, c'est-à-dire là où on décide que l'exportation est donnée ou non par le Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui est responsable sur les exportations d'armement, à l'heure actuelle, où est exactement le seuil de l'interdiction ?
Où est la ligne rouge ?
Voilà, et ça effectivement, il est certain que je pense que dans la situation actuelle, il faudrait certainement faire un petit peu plus de transparence au niveau français.
Stéphane Lacroix, la position française par rapport à l'Arabie Saoudite, elle a souvent consisté à dire l'Arabie Saoudite n'est pas un client, pas seulement un client, c'est un allié. La France assume son alliance forte avec l'Arabie Saoudite. Jusqu'où justement, jusqu'où un lien de partenariat, un lien d'amitié diplomatique, eh bien, peut à un moment se retrouver confronté à certaines limites, certaines lignes rouges, notamment dans la guerre, tout simplement.
Il faudrait qu'il le soit confronté à des lignes rouges, ce lien. Il remonte à la présidence Hollande, surtout. C'est là que la relation s'était vraiment renforcée. Ça avait commencé déjà plus tôt, mais c'est vrai que depuis la présidence
Hollande...
Oui,
Nicolas Sarkozy avait quand même effectué pas mal de voyages.
Oui, c'était plutôt le Qatar.
À l'époque, c'était plutôt le Qatar, Nicolas Sarkozy. Et depuis la période Hollande, il y a effectivement une relation très forte qui s'est créée. Une relation qui est effectivement très liée à la question de l'armement. D'ailleurs, je vous écoutais, c'était ironique, dans votre présentation initiale, vous avez présenté Jean-Yves Le Drian comme ministre de la Défense.
Erreur.
Tout à fait.
Lapsus révélateur.
Mais non, lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Il a été ministre de la Défense, il est devenu ministre des Affaires étrangères.
C'est vrai qu'on a gardé cette image de lui très forte de ministre de la Défense qui allait à travers
surtout,
le monde vendre des armes
ministre
françaises.
Des Affaires étrangères. Enfin, il en porte le titre, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique étrangère. La France n'a pas de diplomatie. Elle fait sa diplomatie à partir de ce qu'elle perçoit de ses intérêts économiques. Et donc, effectivement, ce qui se produit dans le Golfe, c'est qu'on s'aligne sur l'Arabie Saoudite de manière assez systématique dans sa politique régionale, que ce soit au Yémen, en Libye et ailleurs. Et on a l'impression effectivement d'une France qui ne sort pas de cette relation qui est purement économique avec l'Arabie Saoudite.
Vous dites purement économique, justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions aussi plus diplomatiques, plus stratégiques ?
Évidemment qu'il y en a d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit la manière dont on soutient cette guerre au Yémen ou l'implication par exemple de l'Arabie Saoudite en Libye, alors effectivement, il y a la guerre contre le terrorisme qui est l'autre facette de cette diplomatie qui n'en est pas vraiment une, qui s'aligne sur à la fois des intérêts économiques et ce discours de la guerre contre le terrorisme qui ne veut pas dire grand-chose, que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis utilisent de manière très large pour remplir des objectifs qui sont les leurs et qui, a priori, ne nous concernent qu'indirectement. Mais là aussi, j'ai l'impression qu'on s'aligne sur ces objectifs de manière relativement acritique pour préserver des intérêts qui sont d'un autre ordre. Donc, voilà, je vais un peu loin quand je dis qu'on n'a pas de politique étrangère, mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez symptomatique quand même dans tout ça.
Marc Sémo.
Non, je pense qu'il y a une politique étrangère, c'est pas que de l'économie et de la vente d'armes. Le problème aujourd'hui, c'est que la France dans le Golfe se trouve effectivement dans une situation assez étrange. À la fois, elle a des accords de défense avec tous les protagonistes, notamment le Qatar, le Koweït et les Émirats. Mais surtout la France, bon, qui théoriquement dit, voilà, on est dans un jeu d'équilibre, de fait, de plus en plus, est devenu le principal partenaire stratégique du camp anti-Iran, c'est-à-dire de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Et c'est dans cette perspective que la France sur le Yémen a non seulement une responsabilité indirecte, mais quelque part, la France, notamment par la voix de Jean-Yves Le Drian, ne cesse de dénoncer le risque de l'hégémonisme croissant de l'Iran dans la région, et donc, quelque part, justifie la politique des Saoudiens et des Émiratis de la lutte au Yémen contre la rébellion houthi, soi-disant, enfin, réellement soutenue par Téhéran, même si c'est plus compliqué.
Jean-Pierre Molny.
Oui, j'abonderai effectivement dans ce sens. Il y a quand même un débat, on va dire, depuis le mi-mandat de François Hollande sur la question du rééquilibrage de la politique proche-orientale de la France entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce qu'effectivement, il y a eu un basculement sur un quasi-alignement sur les positions saoudiennes, ce qui pose question. Alors après, dans la question de la lutte contre le terrorisme, il y a quand même un aspect très spécifique, j'ai envie de dire, qui, je pense, nous embête dans le fait d'essayer de modérer nos amis saoudiens, c'est que nos amis saoudiens sont parmi les financeurs de G5 Sahel. Et que la question, à l'heure actuelle, de notre implication dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne et le fait que ça fait 6 ans que nous sommes sur place et que nous aimerions bien pouvoir nous en retirer pour diverses raisons, dont les raisons économiques, font que malheureusement, pour le moment, nous sommes un peu liés aux Saoudiens pour le financement de ce qui pourrait être le relais de la présence française.
C'est là qu'il faut trouver l'explication de cette alliance qui reste très forte, qui n'est pas remise en cause par les autorités françaises. Pour vous, c'est la principale...
C'est une partie de l'explication.
Stéphane Lacroix, sur les raisons, et peut-être... les bénéfices diplomatiques du soutien indéfectible de la France à l'Arabie Saoudite. Que risquerait la France aujourd'hui à revoir cette alliance avec l'Arabie Saoudite ? Est-ce qu'elle peut se le permettre ? Ou, comme le souligne Jean-Pierre Molny, il y a des engagements à travers d'autres combats, d'autres fronts qu'on ne peut pas se permettre de remettre en cause ?
Non, le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que vous avez une polarisation énorme à l'échelle régionale entre l'Iran et ses alliés, l'Arabie Saoudite et ses alliés. Et dans une situation de polarisation comme celle-là, il est très très difficile de prendre une position équilibrée. Parce qu'en fait, les Saoudiens ne nous pardonnent pas. Il faut choisir son camp. C'est-à-dire que les quelques ouvertures qu'il y a eu, que ce soit l'accord nucléaire évidemment, mais les ouvertures qui ont suivi de la France à l'égard de l'Iran, ont été extrêmement mal perçues par les Saoudiens. Et donc il y a un moment où finalement, j'imagine que c'est comme ça qu'à l'Elysée on pense, on a l'Arabie Saoudite ou l'Iran, mais pas les deux. Il faut parler aux uns et pas aux autres, il faut choisir son camp. Et historiquement, la relation avec les Saoudiens, elle est quand même plutôt bonne, effectivement, on l'a dit, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Par ailleurs, sur la question de la guerre contre le terrorisme, les Saoudiens, pour ce qui est de la lutte contre les djihadistes, sont plutôt des partenaires crédibles, à mon sens. Hein. Le problème des Saoudiens, c'est que dans la catégorie terrorisme, ils mettent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils y mettent les djihadistes, mais ils y mettent aussi tous leurs ennemis politiques, sans faire de différence entre les uns et les autres. C'est sur ça qu'on doit s'interroger. Maintenant, je pense que on peut discuter dans les années 2000 d'une politique qui était négligente à l'égard du djihadiste de l'Arabie Saoudite. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris la leçon, ils ont compris qu'ils étaient eux-mêmes visés, et donc ils sont perçus par la France comme un partenaire relativement crédible, et par les pays occidentaux comme un partenaire relativement crédible dans la lutte contre les groupes de type État islamique, etc. Voilà. Et d'un autre côté, vous avez cet Iran qu'on connaît mal, avec lequel on n'a pas de relation, peu de relations depuis 35 ans, qui par ailleurs continue d'avoir une rhétorique officielle évidemment très anti-occidentale. Et donc évidemment, quand vous êtes sommé de choisir, vous choisissez, enfin en tout cas ce que j'imagine ce que fait la France, elle choisit le terrain connu et elle évite de prendre cette position plus équilibrée, qui probablement serait évidemment la meilleure sur un plan théorique, mais dans un contexte de polarisation comme celui-là, difficile à tenir.
Il y a que les Russes qui arrivent.
Il n'y a que les Russes qui arrivent.
Donc la question, c'est de se demander pourquoi les Russes y arrivent, d'autant que militairement, les Russes n'ont pas une armée avec un budget plus important que le nôtre.
Qui sont les seuls à discuter avec tout le monde dans la région.
Et est-ce que les partenaires européens de la France, à commencer par l'Allemagne, bien sûr, pourraient être en mesure de peser sur la position française et de forcer la France de revoir cette alliance ? Est-ce que l'Allemagne a essayé de faire, notamment déjà en octobre, au moment de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, l'Allemagne a dit on arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Et puis, on plaide auprès de nos partenaires européens pour qu'ils fassent de même, parce que, comme vous l'avez souligné, Jean-Pierre Molny, être le seul à arrêter de vendre des armes à un pays, ça ne résout rien, puisque les autres vont continuer à approvisionner le pays. Et voilà, est-ce que l'Allemagne, qui est quand même le grand partenaire de la France, ne peut pas peser un peu sur la position française ?
Oui, mais je pense que là, ce sera vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Enfin, il ne faut pas voir ce sujet par la question des exportations d'armement. Et d'ailleurs, la France ne veut surtout pas que cette question soit européanisée. En revanche, la France aurait intérêt à européaniser sa politique concernant le règlement du conflit. Parce que l'Union européenne pourrait peser d'un poids si les pays membres voulaient s'en donner les moyens, pourrait peser d'un poids important dans le règlement de ce conflit. Et c'est dans ce cadre, à ce moment-là, qu'on déciderait quelle est la politique d'exportation sur les pays de la région. Mais si on pose la question uniquement sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, sous l'angle oui ou non, honnêtement, on n'y arrivera jamais. J'en doute.
Juste sur ce point, est-ce que c'est pas le principal problème, d'ailleurs, à propos des relations avec l'Allemagne, le fait que là-dessus, alors je parlais tout à l'heure, l'Allemagne a une politique très restrictive, hein, parce qu'il y a un contrat de coalition et les Allemands respectent les contrats de coalition, où, justement, ils n'ont pas le droit de vendre des armes des pays en guerre, qui était à ce point, j'ai oublié le numéro, qui avait été imposé par le SPD. Donc, ce qui fait que ça pose des problèmes, y compris pour développer dans l'avenir ce dont on rêve maintenant, qui est ce pôle franco-allemand d'industrie militaire, d'industrie de défense au sein de l'Union européenne.
Non, mais c'est certain que ça nous pose un problème avec l'Allemagne. Le paradoxe de la situation, c'est qu'il y a un texte qui est à l'heure actuelle négocié et rédigé entre Français et Allemands pour pouvoir permettre d'exporter les matériels en commun. Et que, personnellement, j'ai un grand doute, effectivement, que le Bundestag vote ce texte, puisque, de toute façon, je pense que le SPD s'y opposera. Mais les questions de vente d'armes, d'exportation en commun, il faut vraiment se poser les questions, là aussi, dans un cadre large, et non pas uniquement en 2019, en regardant la question de l'Arabie Saoudite. Sinon, je pense qu'on ne... On n'y arrivera jamais.
Stéphane Lacroix, sur cette idée qu'avançait Jean-Pierre Molny de pousser vers une résolution européenne, enfin une résolution, en tout cas une prise en compte européenne du conflit dans le Golfe, est-ce que c'est là qu'on va trouver une porte de sortie en étant un peu optimiste sur le conflit yéménite ?
Je suis spécialiste des questions européennes. Pour le moment, ça n'a pas fonctionné. Pour plein de raisons qui sont liées à l'Europe, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse prendre une position commune. Moi, j'avais assisté aux discussions après l'affaire Khashoggi, où pour une fois, on a senti quelque chose pouvait se passer, que les Allemands, effectivement, avaient bougé. Mais on a vu, en fait, des résistances très fortes de la France et d'autres pays. Donc, oui, dans l'idéal, une Europe qui, et là on parle de manière très théorique et très idéale, si l'Europe était capable de prendre une position commune, peut-être qu'elle pourrait justement, pour le coup, dépasser la polarisation dont je parlais tout à l'heure, parce qu'elle serait un acteur suffisamment fort pour se le permettre. Mais tant que les pays européens avancent en ordre dispersé, ils n'en ont pas les moyens. Ils sont aspirés par la polarisation, et donc en l'occurrence, ils s'alignent, dans le cas de la France en tout cas, sur l'Arabie Saoudite de cette manière acritique dont on a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, voilà, dans un monde idéal, les choses pourraient être autrement, mais le monde n'est pas idéal.
Je voudrais qu'on fasse... Jean-Pierre Molly,
je
vous en prie.
Ce serait aussi un moyen de peser face aux Américains, parce que pour l'instant, c'est quand même les Américains qui décident si oui ou non il peut y avoir une résolution du conflit. C'est, encore une fois, si on ne pèse pas d'un poids vis-à-vis des États-Unis, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à trouver une résolution de ce conflit et on sera toujours sur cette problématique de vente d'armes.
Allez, on continue à parler de ce sujet. Yémen, une sale guerre française, point d'interrogation. Mais tout de suite, c'est notre bulle cartooning.
Il fait le clown !
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux ! Assis !
Marguerite Caton. Bonjour, et bonjour Mélanie. Marguerite Caton, on va y arriver.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Et ce matin, pour changer, eh bien, un dessin signé par un dessinateur français.
Et oui Mélanie, la presse française ne pouvait passer à côté du scandale et des polémiques. Surtout pas son enfant terrible, Gilles Lafitte, Lacerpe de son nom de plume, un disciple d'Harakiri qui, depuis ses premiers dessins au monde libertaire, n'a pas renoncé à son humour provocateur, tranchant à Lacerpe, pourrait-on dire. Aujourd'hui, il nous projette dans les sables dorés du désert arabique et l'on aperçoit derrière les dunes les hautes tours d'une cité. Mais honnêtement, Mélanie, ne rêvez pas. On est loin de l'Arabie heureuse que la reine de Saba avait parcourue. Et pour le dire crûment, c'est moche, c'est vilain, c'est laid comme la guerre. Le sable doré tourne au béjas, la ville est noire comme la suie. Et au centre du dessin, massif et kaki, un gros tank pato qui n'a même pas l'air hautement technologique. C'est plus ou moins un mélange entre les chars Leclerc livrés aux Émirats et les canons César de l'Arabie Saoudite. En tout cas, son canon fume encore des bombardements de la ville. Et pour les Béotiens, un titre vient tranquillement expliciter la situation des armes françaises utilisées au Yémen. Mais je vous le disais, Mélanie, Lacerpe est un dessinateur féroce, peu enclin aux lamentations. Et dans ce sombre tableau, il a inséré une petite scène comique, une sorte d'impromptu, entre deux personnages grotesques. Le premier, c'est le conducteur de l'engin. Là encore, désolé, ce n'est pas très joli à voir. Les moustaches pendantes, il louche à tel point qu'il évoque irrésistiblement l'artilleur allemand de la Grande Vadrouille. Vous savez, celui immortalisé par Michel Modo qui n'arrive pas à viser les planeurs. Autant pour les compétences de l'armée saoudienne au passage. À ses côtés, un second personnage, un homme chauve, pas vraiment mieux doté par la nature, complet marron, cravate rayée. Sa posture est intéressante. Un point sur la hanche, le pied gauche tourné vers l'extérieur. Il a l'air un peu bravache, un peu vulgaire. Le genre de type fier de sa marchandise et qui veut l'écouler à tout prix. Représentant du ministère de l'Intérieur ou de la Défense, intermédiaire plus ou moins douteux, on hésite, mais en tout cas, c'est un type arrangeant. « Je vous rajoute quelques caisses de LBD », propose-t-il avec espoir. LBD, lanceur de balles de défense, flashball pour les anglophones. Et notre artilleur de répondre sous d'un prix d'un scrupule qui n'honore personne. J'hésite, c'est une arme qui fait beaucoup de dégâts.
Merci beaucoup Marguerite, votre chronique sur ce dessin à retrouver sur notre fil Twitter. Une réaction avec nos invités Stéphane Lacroix, Jean-Pierre Molny à cette bulle cartooning, à ce dessin et ce regard acéré du dessinateur Lacerp sur les ventes d'armes françaises au Yémen. Jean-Pierre Molny, Stéphane Lacroix.
Ce qui est vrai, c'est que dans la problématique des ventes d'armes, j'ajouterais deux choses. C'est que on vend des armes, et c'est vrai que c'est parfait de vendre des armes tant qu'elles ne sont pas utilisées. Et c'est vrai que le jour où les armes sont utilisées, là on commence à se poser des questions sur « Ah oui, tiens, effectivement, ça peut causer des morts ». Il y a quand même un débat à l'heure actuelle sur les ventes d'armes en France, et dans toute la communauté stratégique, qui est de se dire « Bon, il serait peut-être temps quand même de penser à une réorientation ». De notre politique de vente d'armes, de manière à avoir une répartition qui aille un petit peu plus vers les pays de l'Union européenne, tout simplement, ou des pays comme l'Australie, auxquels on a vendu des sous-marins, et un peu moins vers les pays du Golfe.
Sauf que les gros contrats, ils sont peut-être plus davantage dans ces pays qui sont de fait engagés sur
les
fronts de guerre.
On peut essayer, on a parlé d'autonomie stratégique tout à l'heure, on peut peut-être essayer d'être un peu moins dépendant de nos ventes d'armes au Golfe, quitte à accepter une petite diminution de nos ventes d'armes. Je pense pas que ce soit sur le très long terme un problème pour notre industrie de défense et surtout pour l'autonomie stratégique de la France. C'est une question, encore une fois, d'équilibre. C'est pas une question, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du on-off.
Stéphane Lacroix.
Je veux dire, là encore, il faut revenir sur la dimension politique de tout ça. Quand on regarde dans les 5 ou 6 dernières années, on voit bien que les 3 pays, parmi en tout cas ceux qui achètent le plus d'armes à la France en particulier, mais de manière plus large aux pays occidentaux, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, qui sont 3 pays qui sont engagés à l'échelle régionale dans une grande campagne post-printemps arabe de restauration des équilibres pré-2011. Donc, ce qu'on pourrait appeler de manière un peu simple la contre-révolution aujourd'hui dans le monde arabe, et qui ont besoin de soutien politique pour mener cette offensive contre ce qui s'est passé en 2011, qui à l'époque avait enthousiasmé les Occidentaux. Et cette contre-offensive, elle implique le retour de la dictature militaire en Égypte, une politique tous azimuts, que ce soit au Yémen, en Libye et ailleurs, d'influence, mais aussi de restauration d'une certaine manière de régime à leur image. Au départ, ils se sont aperçus que cette politique elle n'était pas très populaire. En particulier, on se souvient en Égypte, au moment de l'arrivée au pouvoir du maréchal Sissi, les Occidentaux avaient quand même tiqué, c'était un coup d'État, il y a eu quand même 1000 morts en une journée sur une place du Caire. Et d'une certaine manière, c'est à ce moment-là aussi que les factures d'armement se sont mises à monter de manière exponentielle. Parce que c'était une manière d'acheter du soutien politique dans un moment où ces pays, justement, étaient engagés dans une campagne régionale et qu'ils avaient besoin de ce soutien politique. Donc là encore, le problème, il est pas seulement lié à des questions économiques, mais il est lié à cette question politique. Et je pense que tant qu'on ne le pensera pas comme ça, tant qu'on ne s'apercevra pas de ce qui se passe dans la région, c'est-à-dire qu'on sortira le nez des factures, des contrats d'armement, et qu'on regardera de manière plus large le tableau qu'on a face à nous, on pourra se poser d'autres questions que celles simplement. Il y a des questions plus théoriques, effectivement, sur les ventes d'armes que pose mon collègue. Mais je pense qu'au-delà, il y a des questions qui sont liées à ce qui se passe aujourd'hui dans cette région et ce qu'implique de vendre des armes à des pays qui sont engagés dans un certain certain nombre de politiques qui devraient, pour toutes sortes d'autres raisons, nous poser problème dans cette région.
Stéphane Lacroix, il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais qu'on fasse aussi un point sur le conflit lui-même au Yémen. Mi-décembre, un accord avait été conclu, l'accord dit de Stockholm, entre rebelles houthis d'une part et gouvernement yéménite d'autre part. Il prévoyait notamment un cessez-le-feu, le redéploiement des forces. Le 15 avril dernier, l'envoyé spécial de l'ONU a avoué que cet accord tardait à être appliqué. Pourquoi ?
Parce que, je l'ai dit un peu tout à l'heure, on est face à deux protagonistes qui n'ont pas envie de négocier. Les Houthis sont indéboulonnables. Quiconque connaît un peu l'histoire du Yémen sait que les Houthis sont indéboulonnables. Le Nord-Yémen, c'est-à-dire la zone dans laquelle ils se trouvent, n'a jamais été envahi, elle n'a jamais été colonisée. C'est un territoire qui est absolument impraticable, et en particulier impraticable avec des armes traditionnelles.
Oui, c'est suicidaire.
C'est suicidaire. Donc les Saoudiens en sont réduits à bombarder par les airs, faire beaucoup de morts, mais ils ne prennent pas de terrain. Et ils s'appuient sur des miliciens locaux qui viennent souvent du sud, c'est-à-dire qui ne connaissent pas le nord, et sur des mercenaires soudanais et autres qui, là encore, sont absolument inefficaces sur ce type de terrain. Donc, de toute façon, les Houthis sont là pour rester, les Saoudiens ne peuvent pas gagner, et en même temps, les Saoudiens continuent d'être persuadés qu'ils peuvent gagner. Par ailleurs, c'est lié à des enjeux de politique interne saoudienne, parce que Mohamed Ben Salman, le prince héritier, l'homme fort actuel, il a fait de cette guerre au Yémen son argument d'arriver au pouvoir. Hein. Il faut se souvenir que cette guerre, elle commence au moment de l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman. Et au départ, les Saoudiens connaissent d'abord Mohamed Ben Salman, qu'ils ne connaissent pas avant 2015, ils le connaissent comme le chef de guerre. Il apparaît partout à Riyad et ailleurs, dirigeant les opérations au Yémen. Donc aujourd'hui, son avenir politique à lui, en Arabie Saoudite, est aussi lié à la guerre du Yémen. Les Saoudiens ne peuvent pas négocier, parce que s'ils négocient, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est une humiliation.
Oui, mais l'humiliation, elle est déjà là, les objectifs non atteints. La guerre a commencé en 2015, elle devait être courte, c'est ce qu'avaient annoncé les Saoudiens. Donc peut-être que ce point-là a déjà été dépassé. Est-ce que Mohamed Ben Salman, et notamment avec l'appui de ses alliés, la France, les États-Unis, ne pourraient pas trouver une porte de sortie diplomatique pour sortir de cette guerre en gardant la face?
Le problème, c'est que l'interne est lié à l'externe. Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui une phase de consolidation de régime en Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman est en train de consolider son emprise sur le régime. Et il ne peut pas accepter cette humiliation avant que la consolidation soit faite. Aujourd'hui, il se sent encore trop fragile pour apparaître comme étant le perdant de la guerre au Yémen. Peut-être que dans quelques années, quand il considérera que tout aura été suffisamment verrouillé et qu'il n'est plus sur un siège éjectable, il acceptera de négocier. Mais pour le moment, tant que lui ne se sent pas suffisamment solide en interne, on continue en Arabie Saoudite. Il faut écouter les médias saoudiens. On vous explique que les troupes saoudiennes remportent des victoires tous les jours. On est dans la propagande. Les Saoudiens sont abreuvés à longueur de journée de récits de victoires. Bientôt, on va pouvoir l'emporter. Les Houthis sont presque défaits. La ville de Hudaïda est sur le point de tomber, etc. etc. Donc, on continue de faire vivre ce récit trompeur pour, là encore, renforcer la stature de l'homme fort tant que lui en a besoin. Donc, là encore, ce qui est très compliqué en cette guerre, c'est qu'elle est liée à des dimensions diverses, et les unes et les autres ajoutent à sa complexité.
Et juste, l'idée d'une force de l'ONU, des casques bleus, une mission qui arriverait pour prendre le relais, pour pacifier, pour essayer de sortir cette crise, ça vous paraît possible, jouable, souhaitable?
Ce serait une porte de sortie, mais pas tout de suite, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Peut-être que dans quelques années, les Saoudiens l'accepteront, mais les Saoudiens ne l'accepteront pas tout de suite, et probablement les Houthis non plus. Donc, voilà.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Eh bien, merci beaucoup pour vos éclairages à tous les deux, Stéphane Lacroix, Jean-Pierre Molny, sur cette épineuse question des ventes d'armes à la France, à l'Arabie Saoudite. Et tout de suite, eh bien, on passe à notre retour d'eux en partenariat avec l'association Prix Albert Londres. Et le journaliste que nous recevons ce matin nous revient du Liban et d'Israël. Bonjour Armin Arefi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste donc au magazine Le Point. Vous étiez dans la région fin mars, début avril pour une enquête sur le Hezbollah. Le Hezbollah, considéré comme une organisation terroriste en Occident, en tout cas sa branche armée pour ce qui concerne l'Union Européenne, une organisation qui reste un acteur clé non seulement au Liban mais dans toute la région. Votre reportage est paru hier dans le dernier numéro du journal et vous vous êtes rendu notamment de part et d'autre de cette frontière libano-israélienne, une frontière où il n'y a pas eu d'incident majeur depuis 2006, mais une frontière qui reste très surveillée, très contrôlée de part et d'autre.
Oui, tout à fait. C'est un reportage déjà qui a été effectué en deux temps. Tout d'abord, je me suis rendu donc côté israélien à la fin du mois de novembre, où des généraux de Tsahal m'ont parlé justement de la grande menace que représente, d'après eux, justement le Hezbollah, notamment après la guerre en Syrie. Il faut savoir justement que le Hezbollah a été participé à cette guerre aux côtés de Bachar el-Assad. Et me racontaient, ils insistaient sur le fait que le Hezbollah aujourd'hui était très extrêmement fort, sorti renforcé de ce conflit. Preuve en est les multiples tunnels qui avaient été débusqués par l'armée israélienne, Tsahal, au mois de décembre, des tunnels d'attaque selon Israël pour venir et enlever des soldats, s'attaquer à des civils. Donc on sentait vraiment une situation extrêmement tendue. Moi je me souviens de généraux de Tsahal, justement, qui me montraient on était tout près, justement, sur la frontière, la ligne bleue, la zone de démarcation entre Israël et le Liban depuis la fin de, depuis le retrait israélien en 2000, et des soldats de Tsahal qui me montraient, justement, les maisons là-bas en disant, attention, vous voyez ce village là-bas, il s'appelle Adeissé, c'est un village libanais. On dirait les petites baraques là-bas, des baraques normales de civils, sauf qu'elles cachent de l'armement. Et c'est dans ces maisons, dans ces maisonnettes, que le Hezbollah cache environ 100 000 roquettes et missiles qu'il s'apprête, en tout cas qu'il est prêt à envoyer sur Israël. Donc c'était justement l'argumentaire principal israélien, que cette zone, il faut savoir que depuis le retrait israélien, cette zone est censée être occupée par la FINUL, la force des Nations Unies pour Liban, mais également l'armée libanaise, qui est revenue dans le sud du pays à partir de 2006. Sauf que donc ces forces-là donc sont censées contrôler cette zone, sauf qu'elles n'ont pas l'autorisation, elles n'ont pas le droit en fait de fouiller les maisons de ces civils où se cacheraient l'armement. Donc
c'est vrai que du côté israélien, on a à vous lire l'impression qu'une attaque est imminente en permanence, tout le monde est en alerte et en même temps l'ennemi est invisible, c'est-à-dire que des fois les soldats voient un berger qui va dépasser la ligne de démarcation ou bien des civils qui vont s'aventurer sur le terrain et ils vous disent ce sont certainement des combattants du Hezbollah mais ils sont en civil. Voilà, mais il y a ce côté un petit peu, cette tension, elle vient aussi du fait que l'ennemi est invisible d'une certaine manière.
Oui, parce qu'on a d'un côté israélien une armée régulière et de l'autre côté un mouvement de guérilla. Et justement, comme le soufflet des soldats de la FINUL sur place dans cette zone tampon, on ne voit pas les combattants du Hezbollah. C'est un véritable jeu du chat et de la souris qui est engagé. C'est pour ça que ça donne lieu à des situations parfois assez cocasses où on voit des soldats de la FINUL, de cette force internationale, surveiller, mener des véritables patrouilles chaque jour pendant des heures et ne rien trouver si ce n'est le fameux berger qui traverse avec ses moutons la ligne bleue à qui on envoie un avertissement ou alors des civils ou même touristes qui prennent des photos mais rien de plus. Les soldats du Hezbollah, ils ne les voient pas. Sauf que pas plus tard qu'il y a deux jours, il y a donc le porte-parole de Tsahal qui a de nouveau annoncé la découverte d'un grand tunnel, tunnel d'attaque du Hezbollah. Donc effectivement, c'est un conflit qui se joue aujourd'hui, en tout cas côté libanais, sous terre. Il ne faut pas oublier justement que...
Vous êtes allé justement côté libanais, vous étiez côté israélien, mais aussi côté libanais.
C'était le but en fait du reportage. Alors ça a été très très facile de me rendre en Israël, et les soldats israéliens, en tout cas la communication de Tsahal avait intérêt justement à montrer aux journalistes la menace que représente aujourd'hui le Hezbollah, qui est une menace bien plus importante que celle par exemple du Hamas ou du djihad islamique à Gaza. Mais côté libanais, ça a été beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce qu'il est très très facile pour un journaliste de se rendre au Liban. En revanche, pour ce qui est du sud Liban, bourdé des zones contrôlées par le Hezbollah, c'est extrêmement difficile. Donc moi j'ai joué carte sur table, je leur ai dit écoutez, moi je viens pour faire un reportage sur le Hezbollah, sous tous ses aspects, j'essaie de raconter ce qu'est ce mouvement, et au bout de, quand même ça a duré un an pour que j'ai cette autorisation, et j'ai été autorisé à voir en tout cas ce qu'ils ont bien voulu m'en montrer. Alors ce qui était intéressant, c'est que j'ai été à l'intérieur de l'un de ces tunnels. Bon, il faut savoir
alors,
quand même...
ces tunnels, ils sont présentés en tout cas dans votre reportage comme un musée, hein. Ça s'appelle le musée de la résistance, et on vous les présente comme des tunnels qui certains datent des années 80. On n'est pas certain. Enfin, est-ce que ces tunnels, ce sont véritablement des musées ou bien est-ce qu'ils sont encore opérants aujourd'hui ?
Non, Les tunnels qui ont été débusqués par Tsall sont complètement opérants. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'autres, et c'est ce qu'ont confirmé justement des hauts gradés de la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, en me disant justement des tunnels, il y en a plein. Justement, le territoire s'y prête. D'ailleurs, un territoire que connaissent très très bien les combattants du Hezbollah qui en sont issus. Maintenant, le tunnel que moi j'ai vu, c'est un ancien tunnel qui est devenu par la suite un musée dans le sud du Liban, dans la ville de Mlita, dans un musée extrêmement kitsch qui s'appelle le musée de la résistance, dans lequel les officiels du Hezbollah ont souhaité montrer au public et aux journalistes ce qu'est, d'après eux, exactement la résistance. Donc on a justement accès à ces musées, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que à partir de l'invasion israélienne du Liban, en tout cas du sud Liban, en 1982, déjà à l'époque, le mouvement du Hezbollah a développé justement toutes ces tactiques, ces techniques de guérilla, et notamment utilisé ce genre de tunnel. Le tunnel que moi j'ai pu visiter, c'était un tunnel justement qui servait à un tunnel d'observation, en tout cas pour pouvoir se cacher des avions et des jumelles israéliennes. Ce n'était pas un tunnel d'attaque parce qu'il ne donnait pas sur un territoire sur le territoire israélien. Aujourd'hui, les tunnels qui existent à la frontière israélo-libanaise, ce sont des tunnels qui permettraient à des combattants du Hezbollah en cas de conflit de pénétrer sur le territoire israélien. Il faut pas oublier justement que l'enlèvement de deux soldats et ainsi que la mort de deux autres soldats israéliens qui a donné lieu à la guerre de 33 jours en 2006 entre Israël et le Liban.
Et puis votre guide du musée, Ali, un jeune homme de 35 ans, vous dit, vous passez devant des missiles qui sont des missiles pointés sur Israël, et il vous dit, ces missiles-là, si on les expose aujourd'hui, c'est parce que nous en avons d'autres plus récents.
Oui, effectivement, aujourd'hui, l'arsenal du Hezbollah serait d'environ 120 000 roquettes et missiles, dont certains de longue portée, qui n'auraient pas de difficulté à atteindre tout le territoire israélien. Dans ses discours, qui sont assez nombreux, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a à plusieurs reprises menacé, en cas d'attaque israélienne, c'est ce qu'il dit, de s'en prendre justement à la centrale nucléaire située à Dimona, à l'aéroport de Ben Gurion, à Tel Aviv. Donc on sent justement qu'il y a un effet, bien sûr, de la part du Hezbollah, dissuasif, pour éviter une nouvelle invasion israélienne, en tout cas ce sont ces termes, et surtout donc pour jouer la dissuasion, pour éviter un nouveau conflit. Car il ne faut pas oublier que si le conflit 2006 a d'une certaine manière signé la victoire, en tout cas la résistance du mouvement, car au bout de 33 jours les soldats israéliens s'en sont retirés, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui le Hezbollah soit prêt à un nouveau conflit, d'autant qu'il a perdu quand même environ 2000 hommes dans la lutte aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie.
Armin Arefi, dans cette enquête, ce reportage sur le Hezbollah, vous vous êtes rendu aussi à Baalbek, une ville dans le nord-est du pays. C'est là où a été fondé le Hezbollah en 1982. C'est une région touristique mais très pauvre. Est-ce qu'on n'avait pas là l'archétype ou peut-être les raisons qui font que le Hezbollah a aujourd'hui une popularité très forte auprès de la population libanaise, c'est-à-dire être une structure qui apporte un soutien à la population, un soutien que l'État, lui, n'assure pas particulièrement dans cette région?
Je pense que c'est ça qui est très intéressant. C'est vrai que côté israélien, on le comprend, le Hezbollah c'est une menace, c'est un mouvement terroriste, c'est un mouvement qui a tué des soldats israéliens, qui menace Israël, d'ailleurs qui ne reconnaît pas Israël, même si il a un discours un peu davantage libanais depuis maintenant une vingtaine d'années, interne au Liban. Mais c'est vrai, quand on se rend sur place, on se rend compte que le Hezbollah est bien plus qu'un mouvement de guérilla armée. C'est un mouvement qui, à partir de 1990, déjà c'est le seul mouvement qui a conservé ses armes, en usant du prétexte des territoires encore entre les mains d'Israël, notamment des fermes de Sheba, c'est un hameau à la frontière sur la ligne bleue entre Israël et le Liban, mais c'est un mouvement aussi social. Il faut savoir justement que la région de Baalbek où est né le Hezbollah, avec l'aide, il ne faut pas oublier, des gardiens de la révolution iranien, l'armée d'élite de la République islamique, c'est un mouvement justement qui dispose de beaucoup d'associations caritatives qui viennent en aide à la population. J'ai accompagné justement des gens, y compris gens qui travaillaient à la mairie, une mairie donc libanaise, mais qui disposaient de médicaments gratuits,
d'aide à la scolarisation,
exactement, d'aide pour acheter toutes sortes de marchandises dans une région où l'État frappe par son absence. Et même, il faut dire aujourd'hui que puisque c'est le cas de l'État libanais. Aujourd'hui, il y a une grosse crise économique dans le pays et dans beaucoup de régions, y compris des régions qui ne sont pas forcément chiites. Ce sont des régions qui souffrent de l'absence de l'État, qui est un État multiconfessionnel, mais qui est caractérisé par son blocage. 18 confessions, un mouvement, il y a un tiers de sunnites, un tiers de chiites, des druzes et des chrétiens, même si beaucoup s'en vont. Et aujourd'hui, c'est un État qui manque d'efficacité. Et là-dessus, on a le Hezbollah qui, d'une part, avec l'aide de l'Iran, a rendu sa fierté aux chiites, qui était quand même une population extrêmement discriminée jusqu'au début des années 1980 par rapport aux chrétiens, par rapport aux sunnites, et un mouvement qui profite, entre guillemets, de la lutte de l'invasion israélienne pour se porter, justement, pour se montrer comme seul mouvement de résistance dans le monde arabe contre l'État hébreu.
Armin Arifi, est-ce que la popularité du Hezbollah n'a pas été écornée ces dernières années depuis la guerre en Syrie et l'envoi de combattants du Hezbollah aux côtés de Bachar al-Assad faire la guerre en Syrie? De nombreux morts, vous vous êtes rendus dans ce qu'on appelle le paradis des deux martyrs dans la banlieue sud de Beyrouth. On voit les tombes de jeunes hommes, l'un de 17 ans, tombés en Syrie. Est-ce que ça n'a pas écorné la popularité du Hezbollah au Liban?
Alors, il faut savoir que le Hezbollah reste un mouvement populaire dans le sud du Liban, notamment par rapport aux populations chiites, mais pas seulement. Il y a par exemple des villages sunnites où les gens me disaient cette phrase, le Hezbollah, c'est nous en fait, c'est la population, c'est une résistance populaire. Ce n'est pas uniquement le bras armé de l'Iran. Maintenant, il faut savoir que le Hezbollah est critiqué, notamment dans le monde sunnite, que ce soit au Liban ou même à l'extérieur, depuis justement cette guerre en Syrie, où il a quand même dû justifier au Moyen-Orient le fait de combattre d'autres arabes, parce que les Libanais sont arabes, sunnites, et ça c'est un message qui a eu du mal à passer. Maintenant, pour ce qui est justement des fervents partisans du Hezbollah, moi je me souviens de l'argumentaire qui m'était présenté lors des familles de martyrs qui avaient perdu leurs enfants, parfois très jeunes, parfois même mineurs, qui me disaient, mais pour nous c'est clair, Daesh ne sont pas des musulmans, c'est un mouvement qui a été créé par les États-Unis et Israël pour mettre à mal l'axe de la résistance. Mais il ne faut pas oublier, pour ce qui est justement du Hezbollah, que c'est un mouvement chiite, mais qui se heurte quand même à un plafond de verre. Au Liban, il n'ira jamais au-delà de son vivier, qui est la population chiite, mais il n'aura pas l'essentiel de la population libanaise. Donc il doit faire des compromis, et c'est ce qu'il fait actuellement au sein du gouvernement, où il est également présent, car c'est également une force politique. Il ne faut pas l'oublier.
Vous connaissez Soap Kills, Armin Arifi?
Pas trop, à vrai dire.
C'est le groupe qu'on entend, c'est un groupe libanais avec ce titre Wadi. Merci beaucoup, Armin Arifi, d'être passé nous voir dans le retour à Culture Monde. Donc, je rappelle que votre reportage sur le Hezbollah, eh bien, on peut les lire dans le point de cette semaine. Les secrets du Hezbollah, absolument. Et je signale votre dernier ouvrage, Un printemps à Téhéran, paru il y a quelques mois chez Plomb, puisque vous suivez aussi beaucoup ce qui se passe en Iran. Merci beaucoup.
Merci
et tout de suite, c'est le monde des idées, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
En 1989, des dizaines de milliers d'étudiants manifestaient en Chine pour la liberté et les droits de l'homme.
Il y a 30 ans ce mois-ci, j'étais à Pékin en tant que ministre britannique du développement à la conférence annuelle de la Banque asiatique de développement. Ainsi commence l'article mis en ligne par Chris Patton hier. Mais, poursuit-il, le souvenir de ce meeting a été totalement évincé par deux événements qui se sont produits au même moment et qui sont liés entre eux. La visite du leader soviétique Mikhail Gorbatchev et les manifestations monstres de la place Tiananmen. Dans tous les pays soumis au joug communiste à travers le monde, Gorbatchev incarnait l'ouverture, la réforme, la perspective d'élections libres. Les étudiants chinois voulurent exprimer leur propre désir éperdu de démocratie. Mais les dirigeants redoutaient ce vent de réforme, ils redoutaient que l'exemple de la perestroïka soviétique ait raison du régime de parti unique auquel ils devaient leur propre pouvoir. Le vent réformiste qu'avait fait souffler, souvenez-vous, Deng Xiaoping après la mort de Mao Tse-tung venait juste de connaître un premier coup d'arrêt, avec la nomination à la tête du gouvernement d'un conservateur, Li Peng. Alors même que le secrétaire général du parti communiste, Hu Yaobang, en qui on avait cru voir impossible Gorbatchev chinois, avait lui été évincé au début de 1967. Et c'est sa mort, le 15 avril 89, qui donna le coup d'envoi aux manifestations. Le 4 mai, des dizaines de milliers d'étudiants occupèrent la place Tiananmen face à la cité interdite. Les manifestants célébraient le souvenir du mouvement du 4 mai 1919. 70 ans plus tôt, au même endroit, des étudiants et des intellectuels chinois s'étaient rassemblés pour exiger la fin du féodalisme et la liberté d'expression. Leurs successeurs entendaient renouer avec cette tradition d'ouverture et de modernisation. En 1919, les étudiants contestataires avaient édifié deux statues, l'une représentant la science, l'autre la démocratie. Eh bien, leurs descendants érigèrent, eux, une statue de la liberté.
Et comme le rappelle Ian Buruma, la grande figure littéraire du 4 mai 1919, c'était le fameux essayiste et novelliste Lu Xun.
Bah oui, il venait de publier l'une de ses œuvres les plus célèbres, Le journal d'un fou. Quelques années plus tard, il devait fonder d'ailleurs la Ligue chinoise des droits de l'homme. Mais les manifestants du 4 mai 1919 se divisèrent entre une faction modérée et une autre radicale et communisante avec laquelle Lu Xun précisément rompit très tôt. C'est pourquoi il est paradoxal que le parti communiste, dès l'époque maoïste, ait prétendu annexer la mémoire de cet écrivain discrètement ironique et volontiers pessimiste. De la même façon, écrit Chris Patton, les étudiants de la place Tiananmen en 1989, étaient divisés entre ceux qui considéraient un compromis avec les autorités comme une reddition et ceux qui estimaient que retourner librement à leurs études leur garantirait des bases morales solides pour l'avenir. « Nous connaissons la suite », poursuit-il. Alors que le secrétaire général du parti communiste, Zhao Ziyang, un réformiste, avait paru ouvert au dialogue avec les manifestants, les tenants de la vieille garde communiste exigèrent la proclamation de la loi martiale et l'envoi des chars pour mater des étudiants. Devant leur refus d'évacuer la place, la direction du parti autorisa un bain de sang et dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée tira à l'arme lourde sur des étudiants pacifiques et désarmés. On estime généralement le nombre de morts à près de 2000. L'armée populaire de libération, je cite Chris Patton, a massacré les gens qu'elle était censée protéger. Son témoignage est poignant si l'on se souvient qu'il a été le dernier gouverneur britannique de Hong Kong avant sa rétrocession à la Chine de cette colonie britannique. Chaque nuit du 4 juin à Hong Kong, une centaine de milliers de personnes se réunissent pour une veillée à la mémoire des étudiants massacrés place Tiananmen. En Chine populaire même, l'évocation de cette tache noire dans l'histoire du pays est strictement interdite. Mais cette année, le contrôle de Pékin s'étant considérablement alourdi depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping, on redoute à Hong Kong d'y subir aussi la répression. Et Chris Patton rappelle les engagements solennels auxquels ont souscrit les dirigeants chinois envers cette région administrative spéciale qu'est Hong Kong. Hors surpression de Pékin, le gouvernement local vient de proposer une loi autorisant l'extradition de ses ressortissants en Chine populaire. Jusqu'à présent, prévient l'ancien gouverneur de Hong Kong, le refus d'extrader a été un pare-feu crucial entre cette ville qui respecte le règne de la loi et un État qui ne fait pas de distinction entre la justice, la direction du parti et les services de sécurité. Pékin est en train d'alimenter sur place un courant favorable à l'indépendance. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine. Hong Kong, rappelons-le, est le troisième plus important centre financier du monde. Et pour Taïwan, l'exemple des promesses non tenues par Pékin constitue un avertissement.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique à retrouver, réécouter comme d'habitude sur franceculture.fr. Et dans un instant, c'est la grande table d'Olivia Gesbert.